France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Chaque premier lundi du mois, on sélectionne pour vous en kiosque le meilleur de l'actualité des sciences. En ce mois de février, que trouve-t-on à la une de la presse scientifique ? Au menu ce lundi, cela a fait les gros titres partout. La cocaïne est la deuxième drogue la plus consommée en France, après le cannabis. Quels en sont les effets sur le cerveau et comment cible-t-elle les circuits neuronaux du plaisir ? Puis, nous parlerons d'un tout autre marché opaque et en expansion, celui du clonage des animaux de compagnie. Mais aussi nous parlerons des défis et des obstacles pour ramener sur Terre des échantillons du sol martien. Et enfin, d'un phénomène méconnu, le microchimérisme. En chacun de nous, il existe en réalité plusieurs génomes humains. Cocaïne, échantillon martien, microchimérise et clonage au clair de la une. Et Philippe Pajot, bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour tout le monde.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine La Recherche. Sébastien Boller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Blaise Mao, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ouzbek Erika. Et nous sommes en ligne avec Lise Barnéo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique et autrice de l'ouvrage Les cellules buissonnières, paru aux éditions Premier Parallèle en 2023. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources et nos ressources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment l'émission de retour d'échantillons nous éclaire-t-elle sur la formation du système solaire ? Comment cloner son animal de compagnie ? Et qu'appelle-t-on microchimérisme ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, que sait-on des effets de la cocaïne sur notre corps ?
Quelques milligrammes de cocaïne, la soirée ne fait que commencer. Ils ne font pas partie du showbiz. Ils sont trentenaires, leurs revenus entre 1300 et 2000 euros mensuels. Ils sont la nouvelle cible des narcotrafiquants. Ils semblent ignorer les risques liés à la cocaïne, physique d'abord, exemple, les complications cardiaques, psychique ensuite, crise paranoïaque ou dépression. La cocaïne se fixe sur les parois du cerveau. Conséquence, la quantité de dopamine, cet excitant produit naturellement par notre organisme, est alors multipliée par 1800.
Voilà, le journal de 20h de France 2 en 2004, donc 20 ans plus tard, deuxième drogue la plus consommée en France. C'est le sujet de la revue Cerveau et Psycho avec vous, Sébastien Boller. Enfin, c'est le sujet, vous vous intéressez en effet aux effets de cette drogue sur notre cerveau. Que se passe-t-il pour compléter ce qu'on vient d'entendre ?
Il se passe des effets très très puissants et c'est ça qui nous interpelle dans l'actualité. La dernière mesure qui avait été faite, c'était en 2022, 600 000 utilisateurs de cocaïne dans l'année écoulée, c'est comme ça qu'on pose les questions, et en 2025, on est passé à 1 million. Donc il y a vraiment une augmentation énorme qui a été qualifiée de tsunami blanc. Donc on s'est penché sur la question, qu'est-ce qui fait que c'est aussi addictif ? Il y a des décennies de recherches sur l'action de la cocaïne sur les neurones de notre cerveau. Ça, en fait, la cocaïne, elle est terrible parce qu'elle va détourner le système du plaisir dans le cerveau. On a un circuit de neurones dans notre cerveau qui est responsable de la sensation de plaisir, aussi bien quand on va manger un chocolat que quand on va avoir une relation sexuelle, qu'on va écouter un morceau de musique merveilleux. C'est toujours ce circuit-là qui s'active et qui relâche effectivement la molécule qui a été mentionnée, la dopamine. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a plaisir, il y a libération de la dopamine. Et normalement, une fois que vous avez mangé un bon carreau de chocolat, vous avez eu votre décharge de dopamine. Et puis ensuite, vous passez à autre chose parce que la dopamine, elle est évacuée des neurones par des petites molécules qui s'appellent les transporteurs de la dopamine. Et la cocaïne, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'attaque à ces transporteurs de la dopamine de telle sorte que la dopamine n'est plus évacuée des interstices entre les neurones, là où passe l'information neuronale. Et donc, la dopamine reste présente et elle produit cette sensation de plaisir à la fois très intense, très durable et également comme un désir d'avoir toujours plus. Donc, c'est ce qui se traduit par ces symptômes que décrivent les usagers de la cocaïne. C'est l'impression de toute puissance, de high comme ça, d'être très très haut, très surexcité et de pas vouloir redescendre, bien entendu.
Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionne entre la cocaïne et le morceau de chocolat, là, pour comprendre ce système de la récompense, comment la dopamine est-elle produite ? Quelles sont les aires cérébrales impliquées ?
Alors, il y a le système de récompense, donc, qui est composé de, en gros, trois aires cérébrales. Il y a un petit noyau de neurones qui est dans les profondeurs du cerveau, qu'on appelle le tronc cérébral, qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale. C'est de là que viennent les neurones qui libèrent de la dopamine. Et la dopamine va être libérée à deux étages supérieurs du cerveau, un peu comme les étages d'une fusée. Premier étage, c'est le striatum. Et le deuxième étage terminal, c'est au niveau frontal, le cortex préfrontal. Et ensemble, ces trois aires cérébrales vont créer à la fois le plaisir quasi viscéral, très puissant comme ça qu'on peut ressentir en prenant de la cocaïne, et également l'anticipation du plaisir qu'on peut obtenir quand on va se trouver dans des contextes où on a déjà eu du plaisir. Parce que c'est ça aussi hein, l'hameçon qui fait qu'on va vouloir y retourner, c'est quand vous avez eu du plaisir à un endroit, eh bien, ce système va mémoriser les éléments de votre contexte pour créer l'attente du plaisir à chaque fois que vous allez retourner à ces endroits-là. Et ça, on le voit aussi bien pour les sources de plaisir naturelles. Typiquement, si vous avez eu une étreinte divine avec un être aimé dans un endroit précis, le simple fait de repasser devant cet endroit, ça va vous faire battre le cœur. Vous allez vouloir retourner dans la chambre. Par exemple, vous avez eu ce moment très agréable. Et c'est ce même système qui est activé par la cocaïne, mais puissance 10. Donc, la cocaïne va nous faire mémoriser aussi les circonstances où on en a pris et nous faire rechercher de nouveau les mêmes contextes.
Donc, en effet, la France est un des pays les plus touchés en Europe par cette consommation. Pour prolonger pareil sur ces notions de pourquoi cette drogue a un pouvoir particulièrement addictif. Et aux différences, quand on prend de la cocaïne de façon répétée, les neurones aussi finissent par s'adapter.
Alors c'est ça, il va y avoir une phase effectivement très particulière où la cocaïne va amorcer un désir d'y retourner, d'en avoir toujours plus parce qu'on a l'impression que ça ne va jamais redescendre. Et ça, c'est lié au fait que la cocaïne a un pouvoir très spécial. C'est-à-dire, si je reviens à l'exemple du chocolat, vous prenez un carreau de chocolat, vous avez du plaisir. Mais toi, un enfant qui goûte, par exemple, du chocolat pour la première fois, il a beaucoup de dopamine qui va être libérée dans son système de récompense. Et puis, la fois suivante, si on l'amène à l'endroit où il a eu du chocolat la première fois, on va voir que la dopamine, va commencer à être libérée par anticipation. Parce que le simple fait de se retrouver au même endroit lui fait anticiper le fait que peut-être il va de nouveau avoir un carreau de chocolat. Et ce qui est très amusant, c'est qu'une fois qu'on lui donne le carreau de chocolat, il n'y a plus de dopamine qui est libérée. Elle a été libérée en fait par l'attente du plaisir, plus que par le plaisir lui-même. Mais avec la cocaïne, il y a un double effet. Et d'une part, il y a libération de dopamine par anticipation. Mais en plus, quand il y a vraiment l'absorption de la substance, cette fois-ci, il y a un deuxième effet qui se coule, une deuxième libération de dopamine. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on est dans la phase ascendante de la prise de cocaïne, qui peut durer des mois. Hein. Et puis à un moment, le cerveau va s'adapter. Dans un deuxième temps, il va faire intervenir ce qu'on appelle des autorécepteurs, c'est-à-dire des petites molécules qui sont présentes à la surface des neurones et qui vont sentir qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Ça fait trop longtemps qu'il y a trop de dopamine par ici. Et donc, elles vont commencer à donner des ordres aux neurones pour réduire la libération de dopamine. Et là, on commence à être très mal. Parce que même en prenant de la cocaïne, on commence à avoir un émoussement de l'effet. Donc une tolérance, voilà.
Une tolérance aux drogues,
et il va falloir augmenter les doses. Et même à la fin, on augmente les doses, plus rien n'y fait. Et là, c'est la redescente. Et là, c'est la phase dépressive, avec des effets au niveau de l'humeur parfois très très prononcés, une sorte de descente aux enfers, une perte de anhédonie, perte de plaisir pour tout ce qui nous entoure, et parfois même un repli sur soi social hein, qui fait que la personne va se désinsérer et rentrer dans un tunnel dont il est difficile de ressortir.
On a pour le moment pas vraiment de traitement pharmacologique pour favoriser le sevrage, Sébastien Boller.
Non, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, oui, en pharmacologie pure, les médicaments contre la cocaïne, on ne connaît pas. Ce qui est utilisé en thérapie usuelle, c'est plutôt des approches de thérapie type thérapie cognitivo-comportementale, où on va apprendre à la personne à reconnaître les circonstances qui vont lui donner envie pour éviter ces circonstances-là, ou de faire partie de groupes de soutien pour apprendre à retrouver du plaisir avec des choses simples, à diminuer progressivement les doses de stimulation, pour retrouver en fait ces sensibilités au plaisir simple, simple chocolat, pour l'exemple. Et par contre, c'est vrai que ça suffit pas toujours. Et c'est pour ça qu'on est à la recherche de nouvelles techniques thérapeutiques. Il y en a une qui est efficace, c'est la stimulation du cerveau par des ondes magnétiques, où on va cibler certains maillons de ce système de récompense avec des ondes magnétiques qui traversent la paroi du crâne et qui vont inactiver les zones cérébrales concernées, avec des effets souvent assez, assez efficaces.
Justement, quelles sont les parties du cerveau qui sont ciblées pour se défaire de ce cercle vicieux ?
Alors là, on a demandé à une doctorante de l'Institut de neurosciences de la Timone à Marseille de nous expliquer ça. Jeanne-Laure de Peretti, qui travaille avec Christelle Bonnet dans ce laboratoire, et qui s'intéresse plus particulièrement à un noyau tout petit de notre cerveau qui fait la taille d'un haricot. et qui s'appelle le noyau sous-thalamique, parce qu'il est situé sous le thalamus. Et on s'est aperçu que ce noyau, il interagit un petit peu avec les différents maillons du système de récompense, et que donc, on pourrait peut-être le cibler pour perturber un petit peu tous ces systèmes d'automatisme qui nous font retourner toujours vers la cocaïne. Et la technique utilisée, alors pour l'instant c'est sur des animaux de laboratoire, c'est d'implanter des électrodes très fines qui descendent jusque dans le noyau sous-thalamique pour envoyer donc des stimulations électriques pour perturber en fait tout à la fois le noyau sous-thalamique et ses relations avec les autres maillons du système de récompense. Donc c'est fait sur des rats qui ont préalablement pris l'habitude de consommer de la cocaïne, hein, qui sont complètement cocaïnomanes. Les rats, par exemple, ils sont dans une cage où ils peuvent s'auto-administrer de la cocaïne à condition d'appuyer sur un levier. Alors il faut voir qu'un rat qui est cocaïnomane, il est capable d'appuyer 160 fois sur un levier pour avoir sa cocaïne, alors que pour avoir une boulette de sucre, c'est seulement 30 fois. Et au bout de 30 fois, il en a marre. Le sucre, ça vaut pas la peine. Par contre, pour la cocaïne, il monte à 160 fois. Et donc, quand on stimule le noyau sous-thalamique avec l'électrode, on voit qu'on redescend. Le rat perd un peu l'intérêt pour la cocaïne. Il se déshabitue de tout ça et il s'injecte moins de cocaïne aussi. Donc, ça semble être une cible très intéressante aussi pour l'être humain, sachant que quand même, alors cette technique qu'on appelle la stimulation profonde du cerveau, qui suppose d'introduire une électrode, est invasive. Elle se pratique. Hein. Elle a été inaugurée au départ pour les maladies de Parkinson. Ou aussi les syndromes de Gilles de la Tourette, des maladies de ce type-là. On peut introduire une électrode dans le cerveau humain. Ensuite, la personne porte un boîtier de stimulation. Voilà. Mais bon, pour passer à des traitements de sevrage à la cocaïne, c'est quand même assez lourd, assez invasif. Donc l'hypothèse qui est suivie, c'est de se dire il y a peut-être des parties plus en surface du cerveau, au niveau du cortex, qui ont des liens avec le noyau sous-thalamique. Et on pourrait donc parler au noyau sous-thalamique depuis la surface, avec des ondes magnétiques qui cibleraient le cortex cérébral.
Voilà, pour une technique non invasive.
Voilà.
Mais là, on parle en effet de sevrage, de cible thérapeutique. La cocaïne en fait partie des cinq substances les plus addictives, aux côtés de la nicotine, de l'héroïne, de l'alcool et des barbituriques. Est-ce qu'au lieu de guérir, on ne peut pas imaginer tout simplement prévenir, Sébastien Boller?
Alors oui, alors prévenir, déjà, ça voudrait dire ne pas y toucher, c'est sûr. Sachant que au début, ça peut paraître un peu récréatif, mais très rapidement, le risque de dépendance intervient. Alors, toutes les personnes, apparemment, n'ont pas la même vulnérabilité à l'addiction à la cocaïne. Et donc, une des approches proposées par ce groupe de recherche, c'est de distinguer les personnes qui ont une forte vulnérabilité à l'addiction à la cocaïne de celles qui ont une faible vulnérabilité. Bon, ça ne veut pas dire que ce serait pour leur dire « vous pouvez y aller, il n'y a pas de danger », mais quand même, c'est bien de repérer les individus les plus vulnérables. Et à travers justement cette approche-là qui consiste à introduire une électrode dans le cerveau des rats, ils ont observé qu'ils étaient capables de deviner quels animaux allaient devenir accro à la cocaïne et lesquels allaient le devenir beaucoup moins, en repérant une signature neuronale des groupes de neurones qui sont situés dans le noyau sous-thalamique sous forme en fait d'oscillations électriques à basse fréquence, de 4 à 15 Hz. Et quand on observe ces oscillations à basse fréquence dans le noyau sous-thalamique, on peut dire, oui, lui, il va devenir accro à la cocaïne, et c'est ce qui se passe effectivement. Donc, c'est complètement exploratoire, mais c'est l'idée qu'il y a des signes avant-coureurs dans les décharges neuronales des animaux, et potentiellement des humains, si on allait jusqu'à rechercher de telles signatures chez l'homme, qui sont indicatives en fait du risque de développer une dépendance.
Oui, donc là, ce type de recherche, elle montre un lien de causalité entre l'activité électrique du noyau sous-thalamique et cette recherche compulsive de cocaïne, ce que dit ces recherches.
Voilà, c'est une petite boule de cristal qu'on a dans notre cerveau qui nous dit si on risque de basculer ou pas. Après, il vaut mieux pas prendre de risques.
Hein. Imaginez rechercher cette signature cérébrale à la surface du crâne pour savoir si oui ou non on deviendra
addict. Exactement.
En effet, Blaise Mao ou Philippe Pajot par rapport à ces actualités et cette épidémie blanche?
Moi, j'étais interpellé par les techniques qu'on pourrait imaginer justement pour détecter cette prédisposition ou cette vulnérabilité plus forte. Est-ce que, si j'ai bien compris, c'est pas encore, on n'arrive pas assez ça à le faire autrement que de manière quand même assez invasive. On pourrait pas imaginer le faire au niveau de la grossesse ou au niveau de qu'est-ce qui est envisagé sur cette capacité à détecter la vulnérabilité?
Le sujet de recherche là qui est poursuivi par la doctorante du laboratoire, c'est justement d'essayer de repérer ces signatures, pour l'instant qui ont été repérées dans le noyau sous-thalamique, mais à la surface du cortex. Donc ce qui pourrait être fait par électroencéphalographie. Donc vous venez au laboratoire, vous voulez savoir si vous avez un fort risque de venir à l'accro à la cocaïne, on vous pose quelques électrodes sur le crâne, et puis on cherche à voir si vous avez ces oscillations de basse fréquence.
Philippe Pajot, vous avez une question.
Oui, et justement, le fait qu'on ne soit pas tous égaux face aux addictions, j'imagine que c'est également valable pour d'autres drogues. On a des susceptibilités différentes pour toutes les drogues. Est-ce qu'il y en a pour lesquelles on a des éléments plus précis, peut-être?
Oui, il y a toujours une forte variabilité interindividuelle qu'on constate. Ne serait-ce par exemple que pour l'alcool, c'est très très net, hein, puisqu'il y a des polymorphismes sur certains gènes qui sont très très liés à la vulnérabilité, à la dépendance alcoolique. C'est aussi vrai en partie pour la nicotine. Hein. On voit très bien dans notre entourage, il y a des personnes qui peuvent fumer de temps en temps une cigarette de façon récréative sans jamais augmenter les doses, et puis d'autres personnes qui sont complètement accros. Il y a eu des recherches en génétique, effectivement, qui montrent des variations génétiques sur certains gènes qui codent certains récepteurs de la dopamine. Hein. On voit qu'il y a des récepteurs qui sont plus affins, qui attirent plus la dopamine que d'autres, et tout ça est lié. Donc, on n'est pas tous égaux, ça c'est certain, mais peut-être que c'est intéressant de le savoir, justement, de bien se connaître à ce niveau-là.
Lise Barnéou.
Oui, alors moi, je me posais une question, vous avez parlé de tsunami blanc, et c'est vrai qu'on entend surtout parler de ce tsunami de fentanyl en ce moment, alors je me demandais si en fait, il y avait plusieurs tsunamis en cours. Et par ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'idée que cette dopamine était finalement produite dans l'attente du plaisir et plus forcément dans le plaisir lui-même.
Oui, alors j'avais pas entendu l'expression de tsunami blanc pour le fentanyl. Alors j'imagine que c'est dans la continuité du scandale des opiacés aux États-Unis, c'est ça ou...
Oui, c'est ça, oui. Ouais.
Ça
commence en effet à concerner l'Europe et la France également.
Voilà, donc alors là, c'est encore une autre paire de manches. Je ne sais pas si on a eu autre soudalamique pour guetter l'addiction au fentanyl, mais c'est évidemment très très puissant, puisque les opiacés, c'est encore plus fort que la cocaïne en pouvoir addictif. On est face. Moi, ça m'a interpellé en fait. C'est parce que dans le même temps où on a entendu parler de cette recrudescence, cette montée en puissance de la cocaïne, on parlait d'une baisse, par exemple, de la consommation d'alcool. Pas toutes les tranches d'âge, mais notamment chez les jeunes. Donc c'est un peu préoccupant de voir qu'on... C'est pas comme si on remplaçait une addiction par une autre au niveau sociétal, mais il y a manifestement... on bouche un trou, il y en a un autre qui se fait par ailleurs. Et sur le fentanyl, aux États-Unis, on sait ce qui s'est passé. Hein. Ça a quand même été un scandale dans les liens entre le laboratoire, certains médecins, la tendance à surprescrire. Enfin, faut espérer qu'on ait des barrières contre ça en France. Et sur l'autre remarque que vous faisiez, sur le fait que l'attente du plaisir, ça c'est très important parce que ça montre en fait le véritable rôle neurologique de la dopamine, qui est une molécule qui intervient dans les processus d'apprentissage. Puisqu'une fois qu'on a eu un comportement qui s'est traduit par une récompense, ça va consolider certaines connexions synaptiques et donc ça va renforcer le comportement en question parce qu'il est censé être bénéfique. En fait, quand c'est de la recherche de nourriture, quand un comportement aboutit à le fait qu'on trouve à manger, c'est bénéfique à notre survie. Donc, ce système est très bien fait parce que dès qu'on va se retrouver dans un contexte où on peut supposer que les probabilités de trouver à manger, par exemple, sont augmentées, eh ben, ces neurones consolidés vont entrer en action. C'est très, très important, ce mécanisme-là. Il est détourné, évidemment, par les drogues.
Aussi, une autre illustration de la plasticité cérébrale et comment elle fonctionne. On quitte la santé publique et les neurosciences et on poursuit avec notre deuxième sujet du jour, l'aventure spatiale des missions de retour d'échantillons. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, on fait le tour de l'actualité scientifique de ce mois de février en compagnie de nos camarades de la presse écrite. Le magazine La Recherche consacre ce mois-ci un dossier sur l'une des grandes épopées de la conquête spatiale, l'échantillonnage des météorites du sol martien et du sol lunaire.
La NASA a commencé à distribuer des échantillons du sol lunaire recueillis par les cosmonautes d'Apollo 12 aux savants des États-Unis et de 16 autres pays. Ce matin, Claude Boulanger s'est rendu à l'ambassade des États-Unis. Monsieur Sergent Shriver remettait à plusieurs savants français, dont Monsieur Kaplan, chercheur indépendant, et Monsieur Moret, professeur au laboratoire de spectrométrie de IMAS du CNRS, des échantillons de cette précieuse poussière lunaire. Alors écoutez.
Nous sommes très heureux de donner l'échantillon ici aujourd'hui aux chercheurs français parce que les recherches concernant la Lune est une recherche internationale et coopérative et nous sommes très très heureux d'avoir les Français participent dans cette recherche.
Monsieur Kaplan, que pensez-vous pouvoir tirer de ces recherches que vous allez entreprendre ?
Nous espérons comparer ces échantillons lunaires à des échantillons de roches et des échantillons météoritiques recueillis sur la Terre, de façon à en voir les ressemblances et les différences, de façon aussi à en mesurer l'âge.
Monsieur Morette, vous avez reçu vous aussi un échantillon de sol lunaire. De quelle nature est-il ?
Eh bien, c'est un échantillon de ce qu'on appelle la poussière lunaire. C'est un échantillon qui est ramassé à la surface. Et cet échantillon est constitué constituée de très petits grains de poussière. Si vous passez votre doigt sur un meuble sale, vous allez avoir à peu près la granulométrie des échantillons que l'on a un peu dans cette poudre lunaire. On va obtenir des informations qu'on va intégrer dans d'autres informations, et en comparant tout ce qui va se faire, pas seulement ce qui s'est fait sur Apollo 11, ce qui va se faire sur Apollo 12, mais sur tous les autres Apollo, on aura peut-être une image en ce qui concerne la formation de la Lune et l'histoire d'une étoile comme le Soleil. Mais actuellement, on peut dire certaines choses, mais enfin, c'est très préliminaire le travail qu'on a pu faire.
Un travail très préliminaire en 1970, c'est un extrait du journal de 13h de France Inter. Philippe Pageot, depuis les missions pionnières, de nombreuses expéditions robotisées sont revenues avec des roches prélevées sur la Lune, des astéroïdes et on l'espère de Mars. Pourquoi un tel engouement autour de ces échantillons ?
Bon, d'abord, l'idée, c'est quand même d'étudier le système solaire, comprendre l'histoire de notre système solaire. Alors, je rappelle un tout petit peu ce qu'on en sait, quel est le scénario de formation. Donc, il y a 4,6 milliards d'années, donc il y a une formation d'une proto-étoile à partir de gaz, essentiellement d'hydrogène, mais pas uniquement. Et donc, il y a une formation de l'ébauche du Soleil, on va dire, autour duquel il y a un disque protoplanétaire constitué de poussière et de gaz. Donc ces grains de poussière et de gaz sont en fait les briques de base des planètes, mais aussi des astéroïdes, des comètes, de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le système solaire. Donc il y a en gros deux types de formations. La formation d'abord des planètes telluriques, comme la Terre, hein, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et puis ensuite les astéroïdes qui sont une sorte de planète qui ne s'est pas formée, et les planètes gazeuses au-delà. Donc le but du jeu, c'est d'explorer tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour explorer ? Alors, première chose, on peut regarder de la Terre. Ça, c'est évidemment, on regarde le ciel, on regarde la Terre, on a des télescopes, on analyse la lumière, ça donne des renseignements, mais qui ne sont pas toujours des renseignements très précis, parce qu'on a les renseignements qu'on a, on est loin quand même des objets, surtout pour les objets du système solaire, qui sont des objets extrêmement faibles, lumineux, enfin, dont la lumière est très faible, donc c'est pas tout à fait évident. Autre possibilité, vous l'avez évoqué, on passe voir à côté. Donc, ça peut être Voyager, Pionier, des sondes qui se promènent à côté, qui prennent quelques photos. Et là, en général aussi, c'est pas des choses extrêmement faciles, extrêmement précises, parce qu'on passe assez vite. Troisième possibilité, on y va. Alors, c'est les premières sondes spatiales robotisées qui vont explorer. Donc, les premières sondes sur la Lune, c'était des sondes soviétiques. Je vous rappelle qui ont été sur la Lune. Et puis, évidemment, la dernière possibilité, on y va. Et en plus, on rapporte du matériel, des échantillons qu'on analyse sur Terre. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'évidemment, la capacité d'analyse des laboratoires qu'on a sur Terre, elle est infiniment meilleure que ce qu'on peut apporter sur place. Vous n'oubliez pas que le problème, quand on va dans l'espace, c'est la masse. Hein, et donc on ne peut pas apporter des engins, des accélérateurs de particules, choses comme ça. Donc on fait des analyses relativement sommaires. Donc on essaie de partir et d'aller voir de rapporter des choses. Alors,
oui, c'est pour ça, c'est parce que là on cherche à comprendre la composition exacte de ces matières primitives, hein, ouais. Que sont les astéroïdes et qui sont comme une sorte de polaroïde ou d'instantané de ce qui était le système solaire si primitif et si ancien. Et ça en la matière, c'est la JAXA hein, qui est à l'avant-garde, l'agence spatiale européenne qui elle a ramené la première des échantillons d'astéroïdes. De quoi dispose-t-on actuellement comme échantillon?
Alors, pour les astéroïdes, les comètes, alors d'abord, il y a eu des poussières de comètes qui ont été rapportées en 2006. C'est la mission Stardust, a été rapportée des poussières de la comète Wild. Mais effectivement, c'est la NASA avec deux missions qui s'appellent Hayabusa, donc l'agence japonaise, qui a rapporté des échantillons de l'astéroïde Itokawa, tout d'abord en 2010. Et plus récemment, la mission Hayabusa 2 qui a rapporté des échantillons de l'astéroïde de Ryugu. Donc, et puis il y a aussi la mission la NASA Osiris-Rex qui a, j'en parlerai après, qui a rapporté aussi des échantillons. Donc 2010, 2020 pour Ryugu et 2023 pour Bennu qui est donc cette dernière astéroïde. Alors qu'est-ce que ça nous apprend d'ailleurs
ces informations
Par exemple, sur Itokawa, la mission Hayabusa a trouvé que cet astéroïde de type S, ça veut dire avec du silicate, de la silice, contribue à l'apport de l'eau sur Terre. Donc c'était quand même vraiment déjà un élément extrêmement important. Alors, une chose que je trouve vraiment très intéressante dans ces missions d'astéroïdes, c'est que quand on rapporte sur Terre, alors pour vous donner une idée, c'est quelques grammes hein. pour Itokawa et la mission Hayabusa 1, c'est 3000 particules, donc c'est pas grand chose. Pour la mission Hayabusa 2 qui a rapporté de Ryugu 120 grammes, Donc 120 grammes, c'est quand même pas grand-chose. Et sur 120 grammes, on n'analyse pas tout. On en met une partie dans un laboratoire pour en espérant que les laboratoires futurs, les laboratoires d'analyse futurs seront encore plus précis et on pourra encore faire des analyses plus précises. Donc il y en a une partie qui est vraiment mise de côté, qui est archivée en quelque sorte pour le futur.
Et c'est pour 120 grammes pour Bénou, il me semble, voilà. Et les analyses, la mission en effet voilà. De Osiris Rex, les analyses ne font que commencer. On a aussi d'autres missions qui sont à venir, toujours pour essayer d'échantillonner ces astéroïdes, Philippe Pajot.
Oui, alors aussi pour Bénou, il y a une activité très récente qu'on n'a pas mis dans... Donc c'est un article, je ne l'ai pas dit, d'un journaliste qui s'appelle Sylvain Guilbeault. Dans notre dossier de la recherche, le dossier porte sur les sols, il ne porte pas sur ces aspects de retour d'échantillons, mais donc c'est un article précis. Et donc Bénou, qui a été qui est vraiment riche en eau, ça c'est vraiment l'actualité de la semaine dernière, et on a trouvé des dépôts de sel et de saumure dans Bénou. On a retrouvé des acides aminés, donc en fait des bases nucléiques, hein, donc des sortes de briques du vivant. C'est pas encore la vie, mais briques du vivant. Alors j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur la Lune, puisque la Lune aussi a connu, votre archive tout à l'heure le montrait bien, énormément, on a rapporté énormément d'échantillons de lunaires. Donc pour donner une idée, l'ensemble des missions Apollo ont rapporté, donc cette fois-ci c'est pas 100 grammes, mais 382 kg de roches lunaires, donc qui ont été analysées par des laboratoires un peu partout dans le monde. Ça a permis quoi pour la Lune? Ça a permis de faire de la datation, on le disait tout à l'heure, dans l'archive également, de la datation isotopique, et de savoir à quelle période a été formée la Lune. Ça nous a aidé à mieux comprendre la formation de la Lune. Donc les roches qui ont été rapportées ont été datées de 3 milliards d'années à 4,5 milliards d'années. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit que le système solaire c'était 4,6 milliards d'années, donc c'était des roches qui datent d'un peu après la formation du système solaire. Ça a permis de conforter pour la Lune le modèle d'océan de magma, le fait qu'il y ait des mers sur la Lune. Il y a eu une période où c'était du magma qui se refroidit, qui a donné les mers lunaires. Et ça a aussi permis de conforter la formation, les scénarios de formation de la Lune, avec un impact géant qui s'est produit entre une proto-Terre, la Terre qui n'existait pas encore, et une petite planète qui était de la taille de Mars. Et sur la Lune, il y a également beaucoup d'actualités. C'est vraiment des choses qui sont à la fois, il y a un aspect historique et un aspect actuel, puisque les missions chinoises, cette fois-ci, Chang'e 5 et Chang'e 6, ont rapporté à chaque fois 2 kg d'échantillons lunaires. Donc très récemment, Chang'e 6, ça a rentré l'année dernière. Et là, ça a permis de mieux comprendre, notamment la face cachée qui était appauvrie en potassium, ça qu'on ne savait pas du tout. Ça, c'est la dernière mission chinoise. Ce sont des missions chinoises, Chang'e 6, qui a permis de comprendre ça. Et effectivement, vous parliez de missions futures pour la Lune en particulier. Il y aura la mission Artemis de la NASA, Artemis 3 de la NASA, qui est prévu pour 2028, même si pour l'instant on sait bien que la NASA, il y a des voilà les choses qui étaient planifiées se feront pas forcément, voilà, c'est pas tout n'est pas extrêmement clair. Et peut-être pour terminer, on va parler de Mars.
Ah bah évidemment, parce que quand vous avez évoqué les briques du vivant, il y a Mars, hein, pour la recherche d'anciennes traces de vie, ces échantillons martiens qui font évidemment rêver, mais qui rencontrent quelques problèmes actuellement.
Oui, alors donc rien n'a été rapporté de Mars, hein, on a envoyé pas mal de choses autour de Mars, hein, il y a deux rovers actuellement qui sont actifs à la surface de la planète rouge, Curiosity et Perseverance. D'autres qui sont inactifs, il y a des satellites en orbite, enfin, on envoyait pas mal de choses sur Mars, mais la difficulté de Mars c'est de revenir. Voilà, c'est autant sur la Lune, la gravité est assez faible, on peut repartir, on peut renvoyer une fusée, c'est facile. Quand on est sur Mars, c'est quand même nettement plus difficile. Alors on connaît beaucoup de choses sur l'histoire de Mars, hein, sur son passé avec de l'eau, voilà, mais évidemment le but du jeu c'est de retrouver des traces de vie, parce qu'on sait qu'il y a eu une époque où il y avait des conditions d'habitabilité sur Mars, de l'eau, une source d'énergie, des molécules organiques, ça on le sait. Et ce qu'on aimerait bien, c'est effectivement retrouver ces traces de vie passée. Pourquoi pas de vie aujourd'hui, ça c'est peut-être plus délicat, mais en tout cas de vie passée, c'est fossile de vie, on va dire. Et l'un des rovers qui est actuellement à la surface, donc Perseverance, qui est arrivé là-bas en 2020, T1, est fait partie d'une mission qu'on appelle Mars Sample Return, où il est en train en ce moment de récolter des échantillons qu'il met dans des tubes. Alors il en met une partie qu'il garde sur le rover Perseverance, une partie qu'il a mis dans un coin.
Petite tube de 6 cm de long.
Voilà, des petits 2 cm. Bon, là, il y en a une vingtaine qui ont été récoltés, donc en prévision de les rapporter, mais pour l'instant, ils sont toujours là-bas. Et là, difficulté, c'est que le deuxième maillon, effectivement, de ce retour, Mars Sample Return, est en suspens. Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui sont liées évidemment à la situation politique aussi de la NASA aujourd'hui. Et on peut donc là l'espoir, on va peut-être attendre encore longtemps. Mais la JAXA, encore elle, nos amis japonais sont là et eux ont une mission qui est prévue pour peut-être plus tôt, qui s'appelle MMX. C'est une mission qui devrait rapporter cette fois-ci des échantillons d'une des lunes de Mars. Donc Mars a deux lunes, s'appelle Phobos et Deimos. La peur et la terreur, voilà, c'est très très évocateur, et qui ont des formes un petit peu bizarres, et on ne sait pas bien comment ces lunes se sont formées, leur origine, etc. Est-ce que ça vient d'une collision avec la planète? Ça, c'est pas clair. Et donc la JAXA, cette mission MMX, devrait effectivement rapporter un échantillon de Phobos qui permettront de mieux comprendre cette origine, l'origine de ce satellite.
On a la JAXA, en effet, le Japon qui pense lancer la sonde MMX en 2026, puis il y a aussi la Chine qui se positionne avec la mission Tianwen 3, et qui se positionne bien également dans cette course à l'échantillon, Philippe Pajot.
Oui, toutes les choses vraiment évoluent très très vite. Je pense que d'ici, 5 ans, on devrait avoir des échantillons de Mars qui nous permettront de retrouver ces archives du vivant.
C'est-à-dire que fort de leur expérience justement sur la Lune avec Chang'e, là ce serait prolongement avec à peu près des procédés proches de Chang'e 5 et 6, mais pour la planète rouge. À présent, on passe à un tout autre sujet, le microchimérisme. Notre organisme n'héberge pas 100% de nos propres cellules. Combien de cellules d'origine génétique différente peut-on héberger? Réponse dans quelques instants. L'astéroïde Coldes de Calibro 35 en direct sur France Culture, car nous venons de parler de collecte d'échantillons d'astéroïdes. Nous faisons le tour de l'actualité scientifique en compagnie de nos quatre invités du jour. Philippe Pajot, rédacteur en chef du magazine La Recherche. Sébastien Boller, docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Blaise Mao, rédacteur en chef du magazine Ouzbekerika. Et Lise Barnéou, journaliste scientifique et l'autrice de l'ouvrage Les cellules buissonnières. Il paru aux éditions Parallèles en 2023. Alors ce troisième sujet du jour, les cellules buissonnières, c'est une autre façon de parler de microchimérisme. Alors qu'est-ce que c'est, Lise Barnéou? Parce que avec le terme chimère, ça évoque tout de suite le monstre de la mythologie grecque, à la fois lion, chèvre et serpent. C'est une créature assez effrayante. Est-ce que c'est quelque chose de monstrueux, le microchimérisme?
Non, moi je pense que les scientifiques ont fait une erreur en utilisant ce mot-là pour parler d'un phénomène qui nous concerne tous, mais effectivement, ce mot chimère donc permettait d'illustrer le fait qu'il existe des organismes porteurs non pas d'organes d'espèces différentes comme c'est le cas pour notre chimère à la fois lion, chèvre et serpent, mais d'organismes porteurs de cellules d'origine génétique différente. Et en fait, au tout début, ils se sont servis de ce mot chimère plutôt en botanique pour désigner des greffes notamment. Et puis finalement, on a découvert que toutes les espèces placentaires étaient porteuses de cellules d'origine génétique différente. Et je précise ici d'ailleurs que si je ne parle pas de nos microbes, hein, des virus, des bactéries, des levures, etc. qui composent notre microbiote, je parle bien de cellules humaines porteuse d'un autre génome que le nôtre, donc en provenance d'autres individus.
C'est quelque chose d'assez méconnu comme phénomène. Depuis quand connaissons-nous le microchimérisme?
En réalité, ça fait plus d'un siècle qu'on a découvert qu'on pouvait porter des cellules en provenance d'autres individus. Mais c'est vrai qu'au départ, on ne va pas y prêter attention. On va surtout imaginer que c'est une espèce de une conséquence transitoire de la grossesse, parce que on y viendra plus tard. C'est un phénomène qui se déroule au début, en tout cas au moment de la grossesse. Donc, on va imaginer que c'est quelque chose qui se produit durant la grossesse ou juste après, et puis qui va disparaître à terme. Et puis surtout, on a cette idée que, avec la vision du système immunitaire telle qu'elle était à l'époque, mais en vérité telle qu'elle est encore aujourd'hui, qui est un système assez intolérant et qui n'est pas censé accepter la présence de cellules différentes des nôtres, eh bien, on ne pouvait pas accepter l'idée qu'on conserve des cellules génétiques différentes. Et donc, en gros, il va falloir attendre les années 90. Pour qu'on comprenne que non seulement c'est un phénomène ubiquitaire qui nous concerne tous, et puis qu'en plus ces cellules persistent probablement toute la vie.
Alors justement, d'où viennent-elles précisément ces cellules? De nos mères, vous parlez, vous parlez de grossesse.
Alors pour comprendre d'où elles viennent, je pense qu'il faut revenir en arrière au moment où on était dans le ventre de nos mères. En fait, les cellules peuvent traverser les membranes du placenta. On a souvent tendance à imaginer le placenta comme une barrière infranchissable, mais en fait, y a toutes sortes de choses qui peuvent passer à travers le placenta, dont des cellules humaines. Donc en fait, disons, les premières cellules qui nous parviennent, ce sont des cellules qui proviennent de l'organisme maternel, des cellules de nos mères qui vont traverser le placenta et venir s'intégrer dans notre organisme en développement. Et on sait aussi que quand on est dans le ventre de nos mères, on peut récupérer les cellules de nos embryons jumeaux. Et là, je ne parle pas seulement des naissances de jumeaux, mais c'est vrai que j'ai découvert, moi, durant mon enquête, que un bon nombre de fécondations démarrent en réalité avec plusieurs embryons, mais un seul va survivre, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'embryon fantôme. Et en fait, avant de disparaître, eh bien, ces embryons vont léguer des cellules à l'embryon survivant qui va les conserver toute sa vie. Mais il faut bien avoir en tête que ces voyages cellulaires, elles vont dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on est dans le ventre de nos mères, on va récupérer des cellules d'origine maternelle on va les accueillir dans notre organisme, mais on va aussi envoyer nos propres cellules dans l'organisme maternel. Donc, les femmes peuvent récupérer par ce mécanisme les cellules de tout les embryons qu'elles ont portés, que ces embryons soient allés à terme ou non d'ailleurs, parce que on sait aussi que en cas de fausse couche ou d'avortement, eh bien ces échanges cellulaires ont lieu. Et donc une fois que ces cellules se sont installées dans les organismes maternels, eh ben elles peuvent à l'occasion d'une grossesse ultérieure retraverser le placenta, un peu comme des oiseaux qui reviennent au nid, des oiseaux migrateurs qui reviennent au nid, et s'installer en fait dans les nouveaux fœtus en développement. Et donc, si vous m'avez suivi, eh bien, on peut récupérer les cellules de tous ceux qui nous ont précédés dans le ventre de nos mères, en fait, les anciens occupants des lieux. Et que ces aînés soient vivants ou non, parce que, je vous l'ai dit, les fausses couches ou les avortements peuvent aussi donner lieu à ces échanges. Et enfin, c'est pas fini, puisque nos mères portent aussi les cellules de leur propre mère, puisqu'elles ont aussi passé 9 mois dans le ventre de leur mère. Et des chercheurs ont découvert assez récemment, là, en 2021, d'ailleurs c'était une équipe de chercheurs français menée par Nathalie Lambert à Marseille. Et bien, on a découvert que des cellules de grand-mère se trouvaient dans le sang de nouveau-nés. Donc vous voyez, nos mères ont récupéré les cellules de leur mère quand elles étaient dans le ventre de leur mère, et nous, quand on est dans le ventre de nos mères, on peut récupérer les cellules de nos mères, les cellules de nos grands-mères et les cellules de tous les embryons qui nous ont précédés. Donc, ça fait déjà pas mal de monde.
Il y a beaucoup de monde. Il y a d'autres sources de microchimérisme.
On sait, par exemple, que l'allaitement est une source de cellules microchimériques. On sait aussi que les greffes... Alors, moi, c'est vrai que je pensais que quand on se faisait greffer d'un rein, par exemple, eh bien, les cellules du donneur allaient rester dans le greffon. Mais en fait, ça, c'est un peu comme une grossesse. C'est-à-dire que finalement, les cellules du greffon, elles vont migrer ailleurs dans l'organisme. Et d'ailleurs, l'hôte, les cellules de l'hôte vont aussi migrer à l'intérieur du greffon. Il va y avoir un échange cellulaire. On sait aussi qu'en cas de transfusion sanguine répétée avec du sang entier, ça peut aussi donner lieu à du microchimérisme. Et voilà, globalement, ça, c'est les sources de microchimérisme les plus documentées, mais en vérité, on sait qu'il en existe d'autres et voilà, il reste encore à les identifier.
Ouais, d'autres sources non identifiées, mais est-ce qu'on sait ce que font ces cellules dans nos organismes ?
Eh ben, on commence à le savoir. C'est vrai que jusque dans les années 2000, finalement, les recherches, elles se focalisaient surtout à comprendre d'où venaient ces cellules et où elles s'installaient. Et puis aujourd'hui, grâce au progrès technologique et notamment aux technologies dites single cells, là, on va réussir à comprendre ce que font ces cellules. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles bossent comme les autres cellules. Finalement, ces cellules, elles ont des caractéristiques de cellules souches, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner naissance à différents tissus du corps humain. Et selon les lieux où elles vont s'installer, eh bien, elles vont se transformer qui en muscles, qui en cellules sanguines, qui en cellules de peau, etc. Et finalement, ce qu'on a compris, voilà, c'est qu'elles vont, suivre le même cahier des charges que les autres cellules alentour où elles vont s'installer. Elles vont produire les mêmes protéines utiles au bon fonctionnement de l'organe.
Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, ça, d'avoir ces cellules en nous ? Au contraire, ça peut avoir un effet néfaste ?
Eh ben, les deux. Mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai l'impression que il y a de plus en plus d'études qui démontrent des effets bénéfiques aux cellules microchimériques. Notamment parce qu'en fait, on a compris que ces cellules microchimériques étaient particulièrement attirées par des molécules inflammatoires, des cytokines, qui sont des molécules que produisent nos tissus quand les tissus sont lésés. Par exemple, là, si je me coupe la peau, eh ben, mes cellules vont produire ces cytokines-là. Et c'est notamment par ce phénomène-là que nos cellules immunitaires vont venir au niveau de la plaie pour essayer de réparer la plaie. Mais il se trouve que les cellules microchimériques, en tout cas celles d'origine fœtale, possèdent 100 fois plus de récepteurs à cette molécule inflammatoire. Et donc, on a compris qu'elles vont venir spécifiquement dans les zones du corps où on a cette production de molécules inflammatoires. Et une fois sur place, eh ben, ces cellules, elles vont participer à la régénération du tissu. Elles vont fabriquer des vaisseaux sanguins, du collagène. Elles vont remplacer les cellules défaillantes, que ce soit des cellules de peau, des cellules cardiaque, et bref, voilà, elles vont participer à la bonne cicatrisation du tissu. Donc ça, c'est plutôt l'effet bénéfique des cellules, disons, d'origine fœtale chez les organismes maternels, par exemple. Mais on sait aussi que les cellules d'origine maternelle ont un impact positif dans le développement à la fois immunitaire et neuronal des fœtus. Là, il y a des expériences sur les souris en Allemagne qui montrent à quel point ces cellules sont vraiment essentielles pour un système immunitaire efficace et pour un système neuronal efficace également. Et voilà, mais c'est vrai que je voudrais pas donner non plus l'impression que ces cellules font ne comportent que des avantages pour nous. Il y a, voilà, c'est jamais tout blanc, tout noir en biologie, hein. Et en fait, les premières hypothèses qui avaient été formulées dans les années 90, quand on a compris que ces cellules persistaient chez nous, c'était au contraire que ces cellules pouvaient nous nuire, avec cette idée que si on a des cellules génétiquement différentes qui persistent dans nos organismes, ça voulait dire soit que notre système immunitaire était défaillant, soit que ces cellules étrangères pouvaient d'une manière ou d'une autre nous attaquer, nous nuire. Et par exemple, une des grandes hypothèses qui a émergé dans ces années-là, c'est l'idée qu'il y a un lien entre ces cellules microchimériques et les maladies auto-immunes. Et il y a de bonnes raisons, en fait, de formuler cette hypothèse, parce que il se trouve que 80% des victimes des maladies auto-immunes, ce sont des femmes. Très souvent, ça se déclenche après des grossesses. Et en plus, les femmes malades possèdent statistiquement plus de cellules microchimériques dans leur sang que les autres. Et donc, on en est venu à cette idée que soit les cellules microchimériques pourraient être finalement des cellules immunitaires qui attaquent les cellules de l'hôte, ou bien l'inverse, que nos cellules à nous, nos cellules immunitaires, pourraient en fait reconnaître les cellules microchimériques comme étant étrangères et venir tenter de les éliminer, et donc entraînant ainsi une infection chronique. Dans cette hypothèse, finalement, on pourrait plus parler de maladies auto-immunes, c'est-à-dire que ce ne serait pas dirigé contre nos propres cellules, puisqu'il y aurait ces cellules microchimériques au milieu. Ça deviendrait des sortes de maladies allo-immunes, ce qui changerait drastiquement la perspective. Et voilà, aujourd'hui, cette hypothèse, elle est toujours sur la table, elle est encore étudiée par plusieurs laboratoires. Mmh. On sait que ça ne peut pas être la cause unique de toutes les maladies auto-immunes, mais on imagine que dans certains cas, effectivement, ces cellules microchimériques pourraient déclencher ce genre de réaction.
Et pour conclure, Lise Barnet, vous dites en effet que cette hypothèse peut changer drastiquement nos perspectives, mais finalement, le microchimérisme, ça a de nombreuses implications philosophiques, métaphysiques comme découverte.
Ben oui, moi je crois que ça poursuit un peu cette révolution qui avait été entamée en fait avec la découverte du microbiote. Donc il y a 20 ans déjà, on découvrait que on était à moitié microbien. Hein. Si on scanne nos corps à l'échelle cellulaire, on a grosso modo autant de cellules microbiennes que de cellules humaines. Donc c'était déjà un sacré coup de canif, disons, dans nos perceptions un peu égotiques de nos corps. Et puis là, on vient rajouter une nouvelle couche, c'est-à-dire que même cette moitié de cellules humaines qui nous composent, ben on comprend qu'elle n'est pas constituée uniquement de nos propres cellules. Elles ne proviennent pas toutes de notre première cellule œuf. On porte aussi des cellules qui viennent d'autres individus. Donc tout à coup, on se voit, à mon avis, on se voit beaucoup plus comme un collectif de cellules, et, voilà, beaucoup moins homogène que ce qu'on s'imaginait auparavant. Beaucoup plus un collectif en co-construction, on va dire. Et puis, je crois qu'il y a un autre aspect important pour moi, qui est la vision de notre système immunitaire. C'est-à-dire que cette image classique d'un système immunitaire tel une armée qui patrouille dans nos corps pour protéger ses frontières et expulser le moindre élément étranger, cette vision-là ne fonctionne plus. Et ça fait quand même à plusieurs décennies maintenant que des spécialistes appellent à changer cette vision-là de notre système immunitaire et à l'envisager plutôt comme une espèce de force unificatrice de tous ces différents éléments qui nous composent.
Ah, Lise Barnet, le sujet est vraiment passionnant et on sent bien que, que juste là, on chronique dans cette émission, c'est bien trop court et on va tout bientôt consacrer une heure entière sur le microchimérisme. En attendant, on poursuit notre tour d'horizon de l'actualité scientifique.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
En direct sur France Culture, on poursuit d'éplucher la presse scientifique avec la revue Ouzbek Erika et avec vous, Blaise Mao. La revue propose un zoom sur un marché en plein essor, le clonage. Mais le clonage des animaux de compagnie. Alors, pour commencer, il existe deux types de clonage, le clonage thérapeutique et le clonage reproductif. Quelle différence entre les deux ?
Ah bah, nous, on s'est vraiment intéressé au clonage reproductif concernant les animaux de compagnie, hein, qui a rien à voir avec le clonage thérapeutique. Là, on est vraiment dans la lignée de ce qu'on a réussi à faire en 1996 avec la brebis Dolly, qui était donc le premier animal cloné. On a été en fait à Whitesboro, dans la clinique petite ville de 4000 habitants du Texas, où se trouvent les très discrets locaux de Viagen, hein, qui est une société américaine, une des quatre entreprises au monde. Qui est spécialisé donc dans le clonage des animaux de compagnie. L'autre, c'est une entreprise chinoise, une entreprise coréenne et une entreprise espagnole, à Marbella, depuis l'année dernière. Mais Viagen est une des pionnières en fait de cette approche. Ils faisaient ça d'abord sur des chevaux. Et là, depuis 2015, ça fait 20 ans qu'ils font sur des chevaux, et depuis 2015, ils font donc sur des animaux de compagnie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un business en plein essor. C'est pour ça qu'on est allé voir un peu ce qui se passait du côté du Texas. Viagen propose un amour qui dure pour toujours et promet un animal génétiquement identique et certifié en bonne santé, un jumeau de votre animal adoré, mais né à une date ultérieure. C'est intéressant parce qu'on est... Ça trouve son public à un moment où plus de la moitié des Américains qui possèdent un animal de compagnie considèrent ce dernier comme un membre de la famille à part entière, au même titre qu'un être humain. C'est une étude de 2023 qui nous précise ce chiffre. Et Viagen a eu un petit peu de presse, un petit peu d'écho médiatique aussi ces derniers mois, puisqu'il y a quelques stars qui ont fait appel à ses services.
Bah oui, Samantha, la chienne de...
L'incontournable Samantha, la chienne de la chanteuse Barbara Streisand, mais aussi le président argentin en exercice, Javier Milei, qui a fait cloner son mastif, Conan, Il a quatre clones de son chien. Il y a aussi Paris Hilton qui avait perdu son chien près de sa villa, qui a fait appel au service de Viagène pour son petit chihuahua. Donc c'est pas un hasard si je vous parle de ces people, c'est parce que ça coûte très cher, en fait, de faire appel au service de Viagène. Faut compter 50 000 $ pour un clone de chat ou de chien et 85 000 $ pour un cheval.
Alors, les délais de livraison, c'est habituellement 8 mois pour les chiens, 12 à 18 mois pour les chats. Comment ça fonctionne, Blaise Mao?
Alors, c'est ça qui est intéressant, là. Comment ça marche? Donc, je disais tout à l'heure, c'est à peu de choses près la même technique, la même procédure que le clonage de Dolly, donc cette brebis devenue en 96 le premier mammifère de l'histoire cloné à partir d'une cellule adulte et sans reproduction sexuée. Alors, les étapes sont les suivantes. D'abord, il y a les biopsies, on prélève les tissus. Dans les 24 heures, on stabilise les cellules dans un mélange de nutriments et de substances qui favorisent la croissance, le développement des micro-organismes. Je précise que si l'animal est mort, ce qui est souvent le cas puisque les clients font appel en général à ces services quand l'animal est mort, on a à peu près 5 jours après le décès pour, si le corps a été maintenu au frais, c'est-à-dire ni congelé, ni à température ambiante, mais juste à la bonne température, on peut encore faire... Voilà, frigo, exactement. Plutôt frigo que congélateur, sachez-le. Et ensuite, tous les 2-3 jours, les cellules de peau sont nourries. On surveille leur multiplication jusqu'à obtenir 1 à 2 millions de cellules par animal. Et ensuite, elles sont cryopréservées. Elles sont plongées dans des petites fioles qu'on met dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Et là, elles peuvent être maintenues intactes pendant plusieurs décennies. Et arrive la fameuse étape dite du clonage par transfert nucléaire de cellules somatiques. Donc on extrait le noyau de la cellule somatique qui est issue de la peau, qui contient en fait toutes les infos génétiques de l'animal à cloner. On vide ensuite l'ovule d'un animal donneur de son propre noyau. Donc on le transforme du coup en coquille vide qui est prête à accueillir l'ADN à recopier. Et le noyau de la cellule est inséré à l'intérieur et stimulé par une impulsion électrique pour être fusionné avec la cellule et produire un embryon. Donc cet embryon qui va être voué à être implanté ensuite dans l'utérus d'une femelle porteuse jusqu'à la naissance du clone. Donc
c'est là où quand même tout ça aussi enfin c'est déjà assez compliqué tout ça, mais par rapport justement aux mères porteuses, à ces fermes à clonage, on a une étude qui est citée en effet dans Uzbek Erika, une étude publiée en 2022 dans Scientific Reports qui estime qu'après analyse de plus de 1000 chiens clonés depuis 2005, la procédure présente un taux de réussite d'un peu plus de 2%. C'est pas beaucoup, ça montre un taux de réussite très faible et ça pose de nombreuses questions éthiques.
Exactement. Oui, puisque tous les embryons ne donnent pas lieu à des grossesses et toutes les grossesses ne vont pas jusqu'à leur terme. Hein. Donc il y a plusieurs embryons qui sont implantés dans plusieurs mères porteuses pour augmenter les chances de réussite de l'opération de clonage. Il y a effectivement pas mal de bioéthiciens qui se sont emparés du sujet pour pousser quelques coups de gueule. C'est le cas de Jessica Pierce qu'on a rencontrée aux États-Unis, qui parle d'une pratique détestable. Elle dit en fait, elle souligne en fait le paradoxe entre surinvestir l'amour et la valeur qu'on donne à son animal de compagnie d'un côté et en fait faire appel, je la cite, à une forme d'exploitation et de travail involontaire d'une caste d'animaux dont on utilise les ovules à coups de traitements hormonaux et d'interventions chirurgicales, puis le corps d'autres animaux encore pour des gestations à risque. C'est très opaque le nombre d'essais qu'il faut. Évidemment, Viagène ne communique pas cette information, communique pas non plus sur les mères porteuses, puisqu'en fait, elles viennent de clients privés. Donc, ils se cachent, entre guillemets, derrière cet argument pour ne pas communiquer le chiffre. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2005, même si c'était il y a très longtemps, il a fallu plus de 100 utérus et plus de 1000 embryons pour faire naître le tout premier chien cloné.
Et à cela, on peut ajouter le fait qu'il s'agit d'une industrie basée sur le deuil. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique avec science. Mais merci à vous quatre de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, un tout autre sujet. Alexandre Morales nous parle de cognition animale. Oui, les fourmis sont capables de faire des prédictions. C'est la chronique avec science.
Comment étudier les représentations spatiales des fourmis? Et oui, vous allez vous dire que je suis obsédé par les fourmis et vous n'aurez pas totalement tort, mais ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est l'éthologie, la science du comportement animal. Sur les questions de représentation spatiale, on sait déjà beaucoup de choses, notamment sur les animaux relativement proches de nous, comme les mammifères et plus largement les vertébrés. Il y a par exemple le concept de carte cognitive, une forme de représentation mentale de l'espace dans lequel l'animal évolue. Il sait ainsi où se situent les endroits importants de sa vie les uns par rapport aux autres et par rapport à lui-même, c'est-à-dire dans quelle direction et à quelle distance il se situe. Pour les invertébrés en revanche, groupe auquel appartiennent les insectes dont les fourmis font partie, on a tendance à considérer qu'ils auraient une représentation de leur environnement bien plus limitée. Une fourmi sait quel a été son chemin après avoir quitté le nid et peut se situer par rapport à lui, mais si on la déplace, eh bien elle se retrouve perdue. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'anticipation. Chez nous autres humains, on sait qu'il y a une anticipation des conséquences du mouvement. Lorsque vous tournez la tête à droite, vous vous attendez à voir votre champ de vision tourné. C'est une compétence que l'on retrouve plus largement chez les vertébrés, mais on ignorait si les fourmis sont capables d'anticiper les conséquences de leur déplacement. C'est donc ce qu'ont testé les scientifiques dans cette publication parue dans Nature Communications. Océane Dozer-Pérez est doctorante au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Paul Sabatier à Toulouse et première autrice de cette étude.
Comme c'est des cerveaux qui sont beaucoup plus petits et que c'est des processus quand même qui sont assez complexes, jusqu'à présent, on a toujours considéré que c'était plutôt de l'ordre de stimulus-réponse et pas forcément de quelque chose où elle faisait des prédictions complexes et qu'elle répondait plus de l'ordre de l'instantané, on va dire, à l'information qui était présentée. Un peu comme une sorte de réflexe, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un traitement un peu complexe de l'information, qui réagit un peu instantanément sans que l'information soit traitée en profondeur. En fait, comme on travaillait sur la façon dont les fourmis elles intégraient un peu les informations visuelles lorsqu'elles se déplaçaient, on a fait des tests pour voir comment est-ce qu'elles réagissaient à diverses altérations. Et on a vu qu'elles réagissaient de façon vraiment efficace. Elles arrivaient à très bien se réorienter et se recalibrer et compenser en fait les choses auxquelles on les soumettait. Et on s'est dit que peut-être le fait qu'elles étaient capables de faire ça aussi efficacement, c'était qu'elles faisaient pas juste un simple stimulus-réponse, mais qu'elles avaient des mécanismes un peu plus complexes qui leur permettaient d'être aussi efficaces.
Et c'est là qu'on en vient à ma partie préférée. Pour vérifier si les fourmis sont capables d'anticiper les conséquences de leur déplacement sur leur propre champ de vision, eh bien, il faut pouvoir maîtriser ce champ de vision. Mais comment me direz-vous ? Eh bien, par une expérience de réalité virtuelle pour fourmis. Avec un petit harnais, les scientifiques ont attaché des fourmis de manière à les faire marcher sur une bille de polystyrène flottante qui leur fait office de tapis roulant, qui compense et détecte leur déplacement, un peu comme les anciennes souris à billes des ordinateurs. Les fourmis ont donc l'impression de se déplacer dans le monde extérieur alors qu'elles font du surplace en réalité. En plus de ça, elles étaient entourées d'un dôme d'écran LED affichant un paysage qui bouge en fonction de leur déplacement sur la bille, comme un vrai jeu de réalité virtuelle. Alors, à partir de ça, comment prouve-t-on qu'elles s'attendent à voir bouger leur environnement ? Eh bien, en créant une discordance entre leur déplacement et leur champ de vision. Concrètement, ils ont observé les réactions des fourmis lorsque le paysage se déplace beaucoup trop vite, mais aussi lorsqu'elles tournent d'un côté et que leur environnement tourne dans le sens opposé ou bien qu'elles ne bougent pas du tout.
En les exposant à quelque chose qui va pas bouger, peu importe ce qu'elles fassent, comme elles perçoivent jamais de mouvement au niveau de leur vision, si elles faisaient pas de prédiction et donc elles s'attendaient à rien de particulier, ça devrait pas poser de problème et donc pas affecter la façon dont elles se déplacent. Sauf qu'au contraire, ce qu'on a vu, c'est que dans cette situation, les fourmis, elles commencent à faire des espèces de boucles où elles se coincent en tournant longtemps du même côté. Et ça, c'est pas du tout leur comportement de déplacement normal. Et donc, ça veut dire qu'elles font ça parce qu'elles essayent de compenser cette absence de retour visuel, comme si elles étaient poussées, bloquées par quelque chose comme du vent. Et ça, donc, c'est un comportement qu'elles font pas du tout lorsqu'elles sont dans le noir, par exemple, ou pareil, elles ont pas de retour visuel. Donc, dans les deux cas, le stimulus est nul. Et ça veut dire qu'elles ont, entre guillemets, conscience que dans un cas, donc dans le noir, elles ne devraient pas percevoir de retour visuel. Donc, elles ont pas de prédiction, elles s'attendent pas à ce que ça tourne, alors que face à un paysage, elles sont conscientes qu'en tournant, ça devrait aussi tourner. Elles se déplacent et elles s'adaptent en conséquence.
On voit donc que même des insectes au petit cerveau comme les fourmis sont capables de prédire les conséquences de leurs mouvements. Les prochaines étapes sont maintenant de chercher à savoir si ces représentations de l'espace sont plastiques, si elles peuvent s'adapter, ou alors s'il s'agit d'une faculté innée et immuable.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Antoine Beauchamp, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.